Vous écoutez, on lit pour vous.
Combattre la noirceur du monde. Une chronique de Samuel Larochelle parue le 27 juillet 2025 dans le magazine Fugue. J'ai un aveu gênant à faire. Toutes mes plantes sont mortes le même jour. Les feuilles de certaines d'entre elles se sont asséchées. D'autres se sont maquillées avec des picots noirs. Sans oublier celle qui s'est recroquevillée en petites boules comme le pénis d'un gars sué stéroïde. Qu'est-ce qu'elles essaient de me dire? Est-ce un signe annonciateur de la sixième extinction? La vie qui se venge parce que j'ai fait l'erreur de couper ma chevelure légendaire? Ou ma punition après avoir laissé mes plantes pendant 2 heures dans le camion de déménagement quand il faisait moins 19 degrés Celsius? Ouais. J'ai fait ça. Le 14 décembre dernier, après 28 jours dans ma nouvelle maison en Estrie, où je prévoyais continuer ma vie, je suis revenu vivre sur l'île de Montréal et j'ai tué mes bodies de la photosynthèse. Ce jour-là, le mauvais sort a commencé sa job de destruction dans ma vie et à travers le monde. Le 28 décembre, je me suis brûlé au deuxième degré. Dès le 7 janvier, la Californie a été ravagée par les pires feux de forêt de son histoire. Le 20 janvier, un ogre qui mange des minorités pour déjeuner est revenu dormir à la Maison-Blanche. Le 4 février, j'ai appris que j'avais une maladie de la peau causée par une trop grande charge de stress et que mon corps allait être fucking laid pendant 12 semaines. Le 6 février, le Parti québécois a refusé d'appuyer une motion dénonçant la montée de l'homophobie. Le 14 février, toutes les références aux personnes trans et queer ont disparu du site web du Monument national américain célébrant la révolte de Stonewall, alors que ce sont des femmes trans qui ont lancé les émeutes ayant mené à la consolidation du mouvement LGBTQ+. Le 18 mars, la Hongrie a adopté une loi pour interdire la marche des fiertés, en précisant que la police utiliserait des outils de reconnaissance faciale pour identifier les personnes qui défient la loi. Depuis le 14 décembre, la moitié des gens que je croise me parlent de mon retour à Montréal comme si c'était un échec et comme si j'avais pris une décision impulsive. La réalité, c'est qu'après des années à suranalyser le projet pour changer de région et changer de vie, j'ai vécu l'expérience sur le terrain. Je me suis senti comme une plante qu'on a sortie de son pot et qu'on a crissée sur la pelouse avec les feuilles qui pognent dans le vent. J'ai compris que je n'étais pas prêt, comme je l'imaginais, à recommencer ma vie à zéro en solo. Une amie m'a raconté qu'elle avait déménagé en Estrie durant la pandémie et qu'elle pleurait presque tous les soirs toute seule dans sa belle maison. À cet instant, j'ai senti toutes les cellules de mon corps me dire que c'est ça qui m'attendait. Je suis donc retourné à Montréal, fier d'avoir essayé et encore plus fier de me donner le droit de revenir. J'ai décidé de m'inspirer des mots de Brianna Wiest en faisant confiance aux occasions manquées et aux petits signes avant qu'ils ne deviennent grands. J'ai décidé de donner mon attention aux petites contractions de la vie, aux nuits d'insomnie, aux gens qui ne voient pas ce que j'ai à offrir et aux endroits qui me font ressentir un malaise. J'ai décidé d'avoir confiance en ce qui ne fonctionne pas, parce que ça pourrait être en train de me guider vers ce qui va fonctionner. J'ai appris à regarder à travers le brouillard. J'ai vu que les conservateurs n'avaient pas gagné aux dernières élections. J'ai remarqué que les personnes LGBTQ+, sont de plus en plus nombreuses en politique. Aux côtés de Manon Massé chez Québec solidaire, on retrouvait jusqu'à tout récemment Jonathan Pedneau en tant que co-chef du Parti vert du Canada et Charles Milliard dans la course à la chefferie du PLQ. J'ai pris le métro jusqu'à Laval pour assister à un match de la victoire, en réalisant que je n'avais jamais vu autant de queer et de petites familles hétéro avoir du fun au même endroit. J'ai admiré Pierre Lapointe chanter la chanson queer et militante « Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas » devant 1,8 million de personnes à Star Academy. J'ai guéri à 99% de ma maladie de peau. près de 200 000 personnes ont bravé l'interdiction de la Pride de Budapest en défilant dans les rues. Et j'ai vendu ma propriété en Estrie à un couple queer qui fera vibrer les murs de cette propriété centenaire à ma place. Évidemment, je n'essaie pas de vous convaincre d'attendre que le monde se replace sans rien faire. Mais je souffle à vos oreilles que la vie trouve toujours un moyen de nous envoyer des signes pour nous rappeler que la beauté existe encore et qu'on a raison de combattre la noirceur une étoile à la fois. La preuve, il y a quelques jours, toutes mes plantes ont recommencé à pousser parce que je n'ai jamais accepté qu'elles meurent. Et nous non plus, on ne va jamais disparaître. C'était « Combattre la noirceur du monde », une chronique de Samuel Larochelle parue le 27 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
Quand les huards s'encanaillent, un texte de Marie Tison, paru le 19 juillet 2025 dans la presse. Des huards, un peu trop familiers, enquiquinent les pêcheurs du parc national des Grands Jardins, allant jusqu'à chaparder les prises que les pêcheurs laissent sans surveillance. Le personnel du parc cherche à comprendre le comportement inhabituel de ces huards effrontés et à le modifier. « Ça fait longtemps qu'il y a de la pêche sur nos lacs », note Johan Combe-Dution, responsable du service de la conservation et de l'éducation aux parcs nationaux des Grands Jardins et des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Je pense qu'il y a certains oiseaux un peu plus créatifs que les autres qui ont compris qu'ils avaient tout intérêt à se tenir proches d'un pêcheur. Normalement, les plongeons huards éprouvent une certaine crainte par rapport aux chaloupes et aux pêcheurs et ne s'approchent pas. Ce sont des oiseaux territoriaux qui doivent défendre, sécuriser l'espace où ils nidifient, note M. Combe-Dution. Nous demandons aux gens de ne pas s'approcher des huards, de respecter leur zone de vie. Mais là, le problème, c'est que ce sont les huards qui s'approchent. Il raconte que, lors d'une récente sortie de pêche à titre personnel, un huard a émergé à une quinzaine de mètres de sa chaloupe. Je me suis dit, c'est juste un addon. Je me suis déplacé, j'ai traversé le lac au complet. Je me suis rendu compte que peu importe le secteur du lac, le huard me suivait en permanence. Ce comportement a des conséquences pour le pêcheur parce que la présence d'un huard dans un secteur fait fuir les poissons. En outre, il est arrivé que des huards mangent les prises que les pêcheurs avaient attachées à une chaîne qui traînait dans l'eau. C'est d'ailleurs une très mauvaise pratique. L'eau de surface dépasse les 20 degrés de plus en plus fréquemment au cours de l'été, ce qui peut rendre la prise impropre à la consommation si elle y reste trop longtemps. Après avoir pêché votre poisson, dit Johan Combe-Dution, vous devriez le mettre tout de suite dans une glacière, avec de la glace. Vous ne vous faites pas manger vos poissons et vous conservez vos prises dans de bonnes conditions. Il reste que le comportement de ces huards trop familiers est déplaisant et peut constituer un danger pour eux-mêmes. On ne voudrait pas qu'un oiseau cherche à capturer un leurre artificiel qui imite un poisson et qu'il se retrouve avec un hameçon dans le bec. Il ne faudrait pas non plus que les pêcheurs excédés se fassent justice à coups de rame. Ça reste un parc national. Les animaux, on ne leur tape pas dessus avec une rame. Le personnel du parc a essayé divers moyens pour effaroucher les huards trop familiers, comme faire de grands gestes ou utiliser un sifflet, sans grand succès. Johan Combe-Dution aimerait bien que des chercheurs se penchent sur la question pour découvrir l'origine de ce comportement et trouvent des façons de l'infléchir. Ça nous prendrait une étude scientifique en bonne et due forme pour avoir des conclusions plus étayées, nous dit-il. Le personnel à certaines hypothèses liées notamment à la remise à l'eau. On peut imaginer qu'un poisson qui a été attrapé puis remis à l'eau est moins énergique, indique M. Combe du Thion. Il doit peut-être nager moins vite, ce qui en fait une proie beaucoup plus facile pour le huard. Celui-ci a alors tout intérêt à rester près du bateau et attendre qu'on rejette le poisson. La limite de prise de truite est passée de 15 à 10, observe-t-il. Certains pêcheurs ont peut-être pris l'habitude de rejeter les plus petites prises pour garder la possibilité de capturer de plus gros poissons, ce qui n'aurait pas échappé à l'œil exercé de certains huards. Et est-ce que les parents huards refileraient ce truc à leur progéniture? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on serait très content que cela suscite l'intérêt d'une équipe de chercheurs en comportement animal ou de biologistes. Les parcs des Grands Jardins et des Hautes-Gorges ont un autre problème. Des porcs-épics qui grugent à peu près n'importe quoi, du bois bien sûr, mais aussi de l'aluminium. Apparemment, ils aiment le goût de la colle qu'on utilise pour coller le vinyle sur les plaques en aluminium, dit en soupirant M. Combe du Thion. J'en ai vu un, en descendant le sentier de l'Acropole. Il était en train de bouffer le panneau d'aluminium. Je l'ai engueulé et il m'a regardé comme s'il se disait « Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là ?» Plus préoccupant, certains porcs-épics grugent les câbles de frein en dessous des voitures. Apparemment, c'est le liquide de frein qu'ils aiment beaucoup. Ça crée des enjeux de sécurité pour les visiteurs. Mais je me questionne aussi sur la santé animale parce que tous ces produits chimiques toxiques ne vont pas leur faire du bien. Malheureusement, il n'a pas été possible d'interviewer un huard ou un porc-épic pour cet article. C'était « Quand les huards sans canaille », un texte de Marie Tison, paru le 19 juillet 2025 dans la presse.
Encore plus pressé par le temps. Un texte de Catherine Handfield, paru le 22 juin 2025 dans La Presse. Malgré le télétravail, les Canadiens se sentent plus pressés par le temps qu'avant la pandémie, selon des données publiées cette semaine par Statistique Canada. Et le temps passé entre amis fond comme neige au soleil depuis 30 ans. Réflexion sur ces tristes constats. Plus de gens débordés. Vous avez l'impression de manquer cruellement de temps? Vous n'êtes pas seul. En 30 ans, les Canadiens n'ont jamais été aussi nombreux à ressentir une contrainte de temps élevée, révèlent les nouvelles données de Statistique Canada issues de l'enquête sur l'emploi du temps 2022. Cette impression est partagée par une personne sur quatre aujourd'hui, alors qu'en 2015, c'était le cas pour une personne sur sept. Il s'agit d'un sommet historique, constate Statistique Canada. Un peu plus de femmes. Pascal Beaupré, analyste à Statistique Canada, constate. Malgré les changements dans les rôles des hommes et des femmes, au cours des 30 dernières années, le travail rémunéré, le partage des tâches domestiques et les soins non rémunérés, les femmes continuent de se sentir plus pressées par le temps que les hommes. Un peu plus d'une femme sur quatre a déclaré avoir une contrainte de temps élevée, comparativement à un homme sur cinq. Télétravail? Statistique Canada évoque quelques hypothèses pour expliquer la hausse de la perception dans la population d'être contraint par le temps. Le vieillissement de la population, donc davantage de proches aidants. les répercussions économiques de la pandémie et celles sur la santé mentale. Cette hausse peut néanmoins sembler paradoxale si l'on tient compte du fait que le télétravail demeure beaucoup plus répandu aujourd'hui qu'avant 2020. Oui, le télétravail réduit le temps de transport, mais il réduit aussi cet espace tampon entre le travail et la maison, rappelle Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Sentiment d'accélération. Chiara Piazzesi, sociologue et professeure à l'Université du Québec à Montréal, explique. Ce sentiment d'être toujours pressé par le temps, ce sentiment d'accélération, on l'observe depuis une vingtaine d'années. La vie moderne, surtout urbaine, vient avec énormément de contraintes. Les embouteillages, la précarité financière et professionnelle liée à la conjoncture économique, les parents encouragés à suivre de près leurs enfants, à cuisiner à la maison, à faire de l'exercice. Les jeunes adultes, eux, ont un taux d'emploi très élevé. Ils jonglent beaucoup entre le travail et les études. Christine Groux, psychologue, témoigne. Je vois des parents qui n'ont pas une minute à eux. Les cours de ci, les cours de ça, les agendas sont bourrés tout le temps. Comparez simplement les fins de semaine d'aujourd'hui à celles d'il y a 30 ans, alors que tout était fermé le dimanche. Le rythme est aussi effréné la fin de semaine que la semaine. Christine Groux et Chiara Piazzesi nomment d'autres réalités qui pourraient aussi jouer un rôle. Les impératifs de performance au travail. Les équipes de travail sont souvent réduites en raison des compressions ou des congés de maladie prolongés. Et bien sûr, l'hyperconnectivité. Et cette impression de devoir toujours répondre en temps direct. L'enquête a aussi été réalisée en 2022, alors que les gens se remettaient de la pandémie. L'amitié prend le bord. Les données de Statistique Canada, publiées cette semaine, mettent en lumière une autre réalité. Les Canadiens passent beaucoup moins de temps qu'avant avec leurs amis. En 1986, près d'un répondant sur deux voyait des amis dans un jour moyen. En 2022, on parle d'une personne sur cinq. Pascal Beaupré, analyste à Statistique Canada, résume. Le temps passé avec des amis a diminué pour tous les groupes d'âge, mais la baisse la plus marquée, c'est chez les 25-64 ans, donc la population en âge de travailler. Chez eux, la probabilité de voir un ami pour un jour moyen a diminué des deux tiers en 30 ans. 72 minutes. Non seulement les Canadiens voient moins souvent leurs amis, mais lorsqu'ils les voient, ils passent aussi moins de temps avec eux. Le temps moyen passé en leur compagnie est passé de 5 heures en 1986 à 3 heures 48 minutes en 2022. Une perte nette de 72 minutes. 46 %. D'ailleurs, près d'un Canadien sur deux se dit inquiet de ne pas consacrer assez de temps à sa famille et ses amis. Il y a 30 ans, cette inquiétude était partagée par le tiers de la population. Selon Christine Groux, quand tu es pressé par le temps, tu as moins de temps pour voir tes amis. Essayez de planifier un souper entre amis. Même si certains sont à la retraite, c'est difficile d'y arriver. Et l'autre aspect, selon moi, c'est la façon dont les relations se transforment avec l'intelligence artificielle et peut-être une diminution de la tolérance. Or, l'un des facteurs de protection en santé mentale, c'est d'être capable de développer des relations avec suffisamment d'intimité pour se confier l'un à l'autre. Chiara Piazzesi constate. Il y a peu de recherches sur l'amitié, mais effectivement, les cercles sociaux ont tendance à rétrécir. Il y a des changements dans les façons de vivre, d'habiter, d'organiser son temps. Cela dit, peut-être qu'on est en contact avec les amis sans toujours les voir. Depuis la fin du 19e siècle, qu'on dit que la société moderne isole l'individu. Mais est-ce si draconien? Mais je pense que c'est une excellente idée de réfléchir collectivement à l'impact des technologies numériques sur les jeunes, mais aussi sur nous. C'était Encore plus pressé par le temps. Un texte de Catherine Handfield, paru le 22 juin 2025 dans La Presse.
Là où les bâtons cassés reprennent vie. Un texte de Marc Soussiou, paru le 24 juillet 2025 dans La Presse. Avec des bâtons de hockey pouvant coûter jusqu'à 400 $, casser sa palette peut faire aussi mal que de bloquer un tir frappé. Face à cette réalité, Isabelle et Michel Tremblay proposent une solution: réparer plutôt que racheter. Leur entreprise familiale, Recycoquet, remet au jeu chaque année plus de 2500 bâtons brisés dans un esprit à la fois économique, écologique et profondément humain. C'est un bruit sec et familier. Crac! Le genre de son qu'un parent de joueur de hockey mineur apprend vite à redouter. Pour les Tremblay, parents de 7 enfants dont 3 ont joué au hockey sur glace, la facture montait vite. Citation: Mon plus vieux cassait 11 bâtons par année quand il jouait midget. À un moment donné, le budget a commencé à faire mal. C'est à cause de lui qu'on a connu l'entreprise. Fin de citation. Raconte Isabelle Tremblay, conjointe de Michel, qui est aujourd'hui le gérant de Recycoquet. Un procédé maison. Lorsqu'ils ont fait l'acquisition de Recycoquet en 2016, les Tremblay n'avaient ni formation en génie des matériaux, ni expérience en fabrication industrielle. Ils connaissaient cependant bien la réalité des familles pour qui chaque bâton représente un investissement. Ils ont alors repris les procédés existants de réparation, les ont adaptés, puis perfectionnés à force d'essais pour arriver à une méthode qui leur est propre. Citation: On voulait absolument continuer à faire de la réparation, alors on a développé notre propre procédé. Il n'existait tout simplement pas, donc on l'a inventé. Honnêtement, on n'était pas certain d'y arriver, mais on tenait à garder ce service-là vivant. Fin de citation, explique Michel Tremblay. Le défi était de taille. Il fallait non seulement trouver une nouvelle manière de réparer les bâtons, mais aussi concevoir une méthode viable et durable. Citation, ce qu'on voulait, c'était réparer tout, pas juste certaines fissures ou certains types de bâtons. Chez nous, c'est extrêmement rare qu'on refuse une réparation. Fin de citation. Aujourd'hui, M. Tremblay estime pouvoir redonner vie à près de 90 % des bâtons qui lui sont confiés. Chaque semaine, environ 70 nouveaux bâtons atterrissent dans son atelier de Lévis. Ces bâtons proviennent de M. et Mme Tout-le-Monde, mais aussi d'équipes de la Ligue de hockey junior maritime Québec, LHJMQ, de la Ligue de hockey de l'Ontario, OHL, et de ligues locales. D'après la LHJMQ, une équipe de son circuit utilise en moyenne environ 450 bâtons par an, selon qu'elle participe aux séries éliminatoires ou non. Les Remparts de Québec, eux, confirment en avoir commandé 432 cette année, dont 250 ont été redirigés vers Recycoquet pour être réparés. Derrière chaque bâton restauré se cache une dynamique bien rodée. Isabelle s'occupe du service à la clientèle, Michel prend en charge les réparations. C'est plus qu'un duo, c'est un projet de famille. Citation, on est une entreprise familiale. Tous nos enfants, à un moment donné, ont aidé dans l'entreprise. Fin de citation, explique Isabelle Tremblay avec fierté. Le hockey, lui, a toujours été présent dans leur vie. Citation, « Du hockey, il y en a dans notre famille, ça nous en prend. » Fin de citation, lance M. Tremblay. Bien sûr, toutes les réparations ne sont pas éternelles. Le propriétaire précise que certains modèles ou certaines cassures ne sont pas réparables, mais que l'objectif reste de prolonger la vie de l'équipement autant que possible. Un bâton pour chaque joueur. Cette famille veut aussi briser une autre barrière, celle du prix. Le recyclage de bâtons permet de rendre le hockey plus abordable. Pour 60 à 70 $, un joueur peut repartir avec un bâton comme neuf dans des délais d'une à trois semaines. Citation. À la base, c'était surtout pour notre famille, raconte Mme Tremblay. Mais si aujourd'hui ça peut permettre à d'autres de continuer à jouer au hockey, tant mieux. Fin de citation. Pour ce qui est des bâtons envoyés par les différentes équipes, ils sont revendus deux, voire trois fois moins cher que leur prix d'origine. Les équipes de la LHJMQ et de l'OHL font appel à Recycle Hockey pour recycler leurs bâtons brisés, qui sont ensuite revendus à prix réduit, mais un joueur amateur ou un parent peut aussi tout simplement s'y présenter pour en profiter. Cette accessibilité attire une clientèle variée, souvent bien au-delà des frontières de la région. En fait, il est possible de faire livrer les bâtons afin de bénéficier du service. Isabelle Tremblay nous dit, citation, « J'ai des clients de la Gaspésie, de Rimouski, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal aussi. Ils les envoient par dizaines. C'est des amis ou des équipes qui ramassent tous ensemble. » Fin de citation. Les acheteurs ne sont pas que des jeunes, des joueurs adultes, des passionnés de deck hockey ou des papas à la recherche d'un bâton pour les ligues de garage figurent aussi parmi la clientèle. Originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Tremblay ont grandi avec l'idée de ne rien gaspiller. Citation. Ma mère m'a inculqué le recyclage. C'est inné en moi. Pour des cultivateurs et des maraîchers, la conscience environnementale a toujours été présente. Fin de citation. Confie la mère de cet enfant. Au fond, leur atelier ne fait pas que réparer des bâtons. Il recolle aussi un peu l'idée qu'on se fait d'un sport jugé onéreux. Citation. Faire réparer son bâton, c'est de plus en plus apprécié, observe Isabelle Tremblay. Ça coûte cher et tout le monde veut continuer à jouer. Je pense que les gens commencent à changer leur mentalité. Fin de citation. C'était « Là où les bâtons cassés reprennent vie ». Un texte de Marc Soucieux, paru le 24 juillet 2025 dans La Presse.